directeur général de Thinking Africa Cameroun. Et Patrick Chevalereau, consultant international sur les questions de défense et de sécurité, est lui en direct de Paris, vice-amiral à la retraite. Il est vice-président de l'Institut Open Diplomacy et chercheur associé à l'IRIS, l'Institut français des relations internationales et stratégiques. Ravi de vous retrouver tous sur notre antenne. Walid Fares, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que le groupe Wagner? Comment est-il né? Pourquoi a-t-il été vu comme l'ombre de l'armée russe? Brièvement.
En fait, ce groupe-là, qui est quelque chose entre une compagnie privée comme la Blackwater ici aux États-Unis et une milice, en fait, plutôt une petite armée privée, ce groupe a été créé, lancé par le commandement du Kremlin, surtout par le président et ses conseillers, pour pouvoir agir plus rapidement sans les liens administratifs et aussi pour devenir une sorte de force spéciale qui peut agir en dehors de la Russie, parce que autrement, point de vue relations internationales, il serait difficile pour les forces russes de se déplacer en dehors de la Russie, pas seulement en Ukraine, bien sûr, mais en Afrique, au Moyen-Orient et probablement aussi en Amérique latine. C'était ça l'origine du groupe Wagner.
Patrick Chevalereau, qu'est-ce qui a déclenché la rébellion de Wagner et pourquoi cette tentative a-t-elle échoué?
Alors, il semble, d'après ce que l'on sait et d'après ce qu'a dit Prigozhine lui-même récemment, que la décision de réintégrer la milice Wagner dans l'armée régulière russe a déclenché cette réaction. Il y a peut-être d'autres motifs, mais en tout cas, c'est celui qui est avancé et qui est peut-être le plus plausible. Il y avait déjà des désaccords considérables entre Prigozhine et l'état-major russe. Et on est arrivé à cette situation, effectivement, qui a surpris quand même un petit peu beaucoup de monde le week-end dernier.
Samuel Gembock, les mercenaires de Wagner ont exercé une influence significative en Afrique et au Moyen-Orient. Quel a été leur rôle dans ces régions et comment leur récente rébellion en Russie pourrait-elle affecter leur présence et leurs opérations dans les pays étrangers où ils se sont installés?
Je n'ai pas bien entendu la question. S'il vous plaît, vous pouvez reprendre.
Oui, en fait, je vous posais la question concernant la présence, le rôle du groupe Wagner en Afrique.
Oui, c'est un rôle important, notamment pour certains pays. Si je prends le cas de la République centrafricaine, où Wagner est un partenaire privilégié sur la protection nationale, le renforcement des capacités du dispositif militaire, le Mali, le Soudan, etc. Donc c'est un rôle primordial pour ces pays qui sont en situation de tension diplomatique avec l'Occident. Donc on peut clairement indiquer que ce qui se passe en ce moment, ou ce qui s'est passé, pourrait relativement avoir une incidence. Mais il faudrait être un peu prudent aussi pour définir quelques hypothèses ou des scénarios pour l'avenir. Je pense que il est peut-être trop tôt, mais on verra comment le lien entre Poutine et Prigozhine va évoluer pour l'avenir. Mmh. Est-ce que il sera testé? Pardon?
Oui, voilà. Oui, certainement. Donc, peut-être un peu trop prématuré. Alors, le président américain a affirmé que les Occidentaux n'étaient pas impliqués dans la rébellion avortée de Wagner. Pour Joe Biden, Vladimir Poutine est désormais un paria à travers la planète qui perd clairement la guerre en Ukraine. Le locataire de la Maison Blanche ajoute toutefois qu'il est trop tôt pour dire si le chef de l'État russe a été affaibli par la récente mutinerie. Walid Fares, quelle lecture faites-vous des réactions américaines et européennes après les événements du week-end dernier en Russie?
Plusieurs points très rapides. Premièrement, à ceux qui disent que on n'a rien à voir, on n'a rien à faire avec ce mouvement, on ne sait pas. En fait, c'est le Congrès qui va poser ces questions à l'administration parce qu'on sait très bien qu'on est déjà en état de tension avec la Russie à cause de l'Ukraine et tout cela. Mais il est très possible que ce mouvement, en fait, a été lancé, comme les experts l'ont affirmé, de l'intérieur. C'était vraiment une division interne d'influence, pas entre Poutine et Prigozhine, mais en fait entre les conseillers de Poutine et Prigozhine. Mais en fait, la réalité est que à ce point-là, les États-Unis, l'OTAN l'Europe voit d'un bon œil qu'il y ait des divisions à l'intérieur de la Russie. Mais ça, il faut faire très attention, car une grande déstabilisation de la Russie avec ses armes nucléaires ne serait pas à l'avantage du monde occidental.
Patrick Chevalereau, quelle a été l'implication de Wagner dans la guerre que mène la Russie en Ukraine depuis pratiquement un an et demi maintenant, et comment la situation actuelle en Russie pourrait-elle influencer le cours de ce conflit?
Alors, Wagner a commencé sa carrière à l'extérieur de la Russie, au Moyen-Orient, en Syrie, en Afrique. Et finalement, le déclenchement de l'agression russe le 24 février 2022 contre l'Ukraine a vu l'émergence de la milice Wagner dans les zones occupées par la Russie, dans les zones de l'Ukraine occupées par la Russie, même si depuis 2014, dans les zones du Donbass, il y avait effectivement une présence Wagner en Russie. Il faut bien voir que la bataille de Bakhmout, qui a duré 9 mois à peu près, a été un petit peu l'étendard de Wagner, une espèce de bataille de Verdun, toute proportion gardée, qui s'est quand même traduite avec des pertes considérables de la part de l'organisation Wagner, qui s'est quand même au final par un succès. Succès à la russe. Donc Wagner a peut-être un petit peu le crédit de cette offensive ukrainienne. Ouais.
De la fameuse bataille de Bakhmout. Alors, Samuel Gembok, les États-Unis ont fait part mardi dernier de nouvelles sanctions contre les activités de Wagner en Afrique. Pour Brian Nelson, le sous-secrétaire au Trésor américain, le groupe finance ses opérations brutales, en partie grâce à l'exploitation de ressources naturelles dans des pays comme la République centrafricaine et le Mali. Le même jour, Vladimir Poutine est venu dire que c'est l'État russe qui a entièrement financé Wagner à hauteur de plus $1 milliard sur l'année écoulée. Mais Samuel Gembok, êtes-vous d'avis que les mercenaires russes ont fait fortune sur le continent africain, dans les mines d'or par exemple?
Je crois que c'est une évidence parce que la presse internationale en parle. La quasi-totalité des experts sont unanimes sur cette question. Je pense que Prigogine a relativement bénéficié au cours des dernières années d'une marge de manœuvre grâce à cette exploitation des zones minières, des ressources naturelles de toutes sortes. Je pense qu'il bénéficie au jour d'aujourd'hui d'une certaine autonomie financière. Maintenant, sa capacité stratégique pour influencer les décisions, si jamais il n'y a pas une parfaite entente avec Poutine, pourrait justement avoir des conséquences sur sa présence en Afrique.
Je vous propose un des commentaires tirés de la page Facebook de VOA Afrique. Yao Marcelin Kofi d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Certains pays occidentaux présents militairement en Afrique se réjouissent de cette mutinerie avortée du groupe Wagner en Russie, mais cela ne devrait pas empêcher la poursuite des opérations des instructeurs russes au Mali et en Centrafrique. En somme, il serait souhaitable pour le président Poutine d'associer le patron du dit groupe à la gestion de l'armée russe afin d'être à l'abri de toute éviction du pouvoir. Et voilà pour ce commentaire. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. La suite du Washington Forum, ce sera après cette courte pause. Nous allons retrouver nos invités. Merci beaucoup.
À la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Washington Forum, édition du jeudi 29 juin 2023. Nous décryptons l'après-coup de force du groupe paramilitaire Wagner en Russie et nous retrouvons nos invités de Yaoundé, docteur Samuel Gambock, enseignant permanent à l'IRIC. Il est également directeur général de Thinking Africa Cameroun et enseignant associé à l'IRIS. En direct de Paris, le vice-amiral Patrick Chevalereau. Il est vice-président de l'Institut Open Diplomacy et chercheur associé à l'IRIS. Ici, dans la capitale américaine, le docteur Walid Fares, expert en politique étrangère, secrétaire général du groupe parlementaire atlantique, conseiller des membres du Congrès américain et professeur de sciences politiques, auteur également de plusieurs ouvrages, dont Du printemps arabe à l'automne. Walid Fares, comment cette rébellion a-t-elle impacté la perception interne et internationale de la stabilité du pouvoir de Vladimir Poutine? Était-ce le plus grand défi, d'après vous, auquel il a été confronté depuis son arrivée au pouvoir?
Tout à fait. Quand un président d'une superpuissance voit des chars qui rentrent dans la province de Moscou, c'est vraiment, ça doit être probablement le plus grand défi qu'il a confronté. Mais ce défi est lié à d'autres créneaux de son pouvoir. Il est en pleine guerre en Ukraine. Il a besoin du Wagner ou d'un groupe comme le Wagner. Mais il est tout à fait maintenant, je pense qu'il le sait, que le commandement de Wagner n'est pas un pro-Poutine à ce point. Là. Donc il doit, comme on l'a vu dans votre reportage, trouver une solution intérimaire pour le moment, c'est de bouger ce commandement, Prigojine, dans d'autres pays, y compris possiblement en Bélorusse, mais aussi il a besoin de Wagner dans l'Afrique, au Proche-Orient et partout. Donc sa position est vraiment très délicate. S'il coupe Wagner, il se coupe lui-même. S'il laisse Wagner, ce groupe-là pourrait bien, avec son financement, grandir en influence.
Patrick Chevalereau, quelle est la signification de l'exil d'Evgeny Prigojine au Bélarus? Est-ce un signe de la fin de Wagner ou une simple pause pour le groupe?
Alors, je crois qu'il faut peut-être différencier Wagner de Prigojine. Est-ce que c'est la fin de Prigojine? J'aurais personnellement tendance à dire oui, je me trompe peut-être, mais après ce qui s'est passé, vous savez, l'État russe n'est pas du type à pardonner ce genre de choses. Après, effectivement, comme l'a dit le professeur Walid, cette organisation est importante pour les opérations extérieures de la Russie, et notamment en Afrique, mais là, on a un problème de financement, sauf si effectivement Wagner est autonome financièrement, mais il n'y a pas que les finances qui comptent, il y a aussi toute la logistique, c'est-à-dire l'armement, les munitions. Je rappelle que Wagner possède des armes lourdes, des chars, des blindés, des hélicoptères et même des avions. Donc Wagner sans la Russie derrière n'est peut-être plus le Wagner un peu flamboyant et qu'on connaît en Afrique depuis son implication en République centrafricaine et au Mali. Ça, c'est l'avenir qui nous...
Oui. Samuel Gambock, pour Washington, la Russie a montré à ses partenaires africains que Wagner a porté mort et destruction. Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, affirme pour sa part que le groupe paramilitaire va continuer d'opérer au Mali en République centrafricaine. Ce qu'a d'ailleurs confirmé Bangui en indiquant que la RCA a paraffé un accord avec la Russie et non avec Wagner. Alors la question, Samuel Gambock, pourquoi certains pays africains se sont-ils associés à Wagner alors que ce groupe a longtemps été accusé par les Occidentaux d'être un instrument d'influence russe, de commettre des atrocités là où il est déployé et d'extorquer les ressources naturelles?
Je pense que tout part du développement du sentiment anti-occidental d'une manière générale en Afrique, mais particulièrement des tensions diplomatiques entre ces pays, notamment la Centrafrique et le Mali, avec le bloc occidental. Je pense aussi que le fait que ces pays n'aient pas bénéficié du soutien logistique, matériel, militaire nécessaire pour le renforcement des capacités de leur pays a fait en sorte que le choix de la coopération avec la Russie puisse se sceller un peu plus facilement. Donc, oui. Wagner, qui prend le lead dans ces pays en ce qui concerne les questions de sécurité et de défense, oui. est bienvenu. Je pense que le discours officiel des autorités russes renforce un peu, vient un peu régler le problème de l'inquiétude que suscitait déjà cette tension auprès de ces pays.
Un autre commentaire à Facebook, Alex MN, Libreville, Gabon. La chose la plus importante que je retiens du discours de Poutine est que les territoires annexés sont désormais pleinement russes. Je le pense à l'aune des éléments suivants. Les membres Wagner qui combattaient dans les territoires annexés seront incorporés dans l'armée régulière. Wagner est interdit d'opération sur le territoire russe. Walid Fares, quel pourrait être l'impact de la révolte de Wagner sur la stratégie géopolitique de la Russie, en particulier en ce qui concerne son utilisation de groupes paramilitaires pour exercer son influence à l'étranger?
Si vous me permettez, je vais commencer par l'Afrique, parce que c'est l'étendue la plus importante pour Wagner, à mon avis, y compris, bien sûr, avec la Syrie, mais en Syrie, ce sont des troupes régulières russes. Ce que j'appelle le dossier fantôme, le dossier caché qu'on ne discute pas beaucoup, c'est la raison principale et initiale, bien sûr, officielle, pour que certains gouvernements africains et même des partis politiques auraient opté pour l'option russe, y compris Wagner, parce que Wagner a été vu sous l'étendard russe, non pas seulement comme une compagnie privée, ouais. C'est que quelque chose de commun entre tous ces pays, si on regarde, si vous voulez, le Mali, la Haute-Volta, la République centrafricaine, la Libye et maintenant une partie du Soudan, qu'est-ce qui est commun à eux? C'est un combat contre les milices djihadistes et islamistes. Et surtout après, des années après le collapse, ou bien la fin du printemps arabe. Les Russes et Wagner ont promis à ces gouvernements d'être en solidarité avec eux contre une politique américaine sous Obama et sous Biden, parce que sous Trump, c'était pas très clair. Et cela constitue une raison très profonde, y compris bien sûr les intérêts, et puis y compris bien sûr les tensions entre ces pays et l'Ouest. Mais cette lutte contre ces groupes extrémistes est très important pour ces nations africaines.
Le président bélarusse Alexandre Loukachenko affirme avoir dit à Vladimir Poutine de ne pas assassiner Evgeny Prigojine. Patrick Chevalereau, comment voyez-vous le rôle que joue Loukachenko dans toute cette situation?
Alors il faut se garder, je crois, de commentaires définitifs sur Loukachenko. Mais j'ai tendance à penser que le pouvoir de Loukachenko est très relatif dans cette affaire. Il est difficile de croire que Loukachenko agit comme une personne indépendante dans cette négociation. La Biélorussie est un État qui n'est pas loin d'être sous tutelle russe. Hein. Je crois que le président Loukachenko se positionne au moins facialement de manière relativement habile, mais peut-être que dans cette affaire il n'est qu'un rouage de quelque chose qui le dépasse totalement. La présence de Wagner, le repositionnement de Wagner en Biélorussie est un autre problème pour les pays européens, hein, puisque la base de Wagner va être située désormais à une trentaine de kilomètres des frontières de l'OTAN, si on peut appeler ça les frontières de l'OTAN.
Alors, le ministère russe de la Défense, bête noire de Wagner, a évoqué le transfert des équipements militaires lourds du groupe à l'armée régulière. Samuel Gembok, si Wagner est complètement démantelé, un autre groupe de mercenaires verra-t-il le jour avec pour objectif d'avancer les intérêts de Moscou afin de concurrencer ceux des Occidentaux en Afrique et ailleurs dans le monde?
Je vais revenir à la réponse qui a été donnée il y a un instant, c'est-à-dire qu'il est difficile de faire une différence entre l'État russe et Wagner. Donc je pense que Prigojine, lui, peut ne plus exister, mais Wagner pourra poursuivre ses activités, et je pense que Wagner est le bras séculier en matière militaire dans la politique étrangère russe en Afrique. Et donc, il sera difficile, le temps jouant en défaveur de la Russie, il serait difficile de laisser mourir Wagner et créer une nouvelle milice. Le temps de créer une nouvelle milice et de maîtriser le terrain pourrait jouer en sa défaveur.
Walid Fares, pourquoi les pays membres de l'OTAN sont-ils inquiets à propos de l'arrivée de Yevgeny Prigojine au Bélarus?
Parce que l'histoire nous dit, et dit aux Européens, à l'OTAN en général, que là où Wagner ou Prigojine arrive, il va y avoir une action. Et donc la seule action possible, comme le vice-amiral a bien défini, c'est potentiellement, en plus de l'Ukraine, qui est une guerre qui se poursuit déjà, des tensions possibles avec les États baltiques. Il y a aussi une considération très importante stratégique pour les Européens, on n'en parle pas beaucoup, c'est Kaliningrad. Alors, on ne sait pas dans l'évolution du conflit. Kaliningrad est russe, un territoire russe maintenant qui était allemand en histoire. On ne sait pas vraiment quelles sont les évolutions qui vont se passer entre le bloc russe, donc la Russie blanche, comme on l'appelait avant, et Kaliningrad. Et donc, la présence de Wagner est considérée comme sérieuse là-bas.
Patrick Chevalereau, vous pensez que l'Ukraine pourrait tirer profit de toute cette situation?
Ah, il est certain que ce qui se passe dans l'appareil politico-militaire russe montre des difficultés, des difficultés internes. Il faut bien voir que ce week-end, Wagner s'est introduit dans la ville de Rostov, qui est le quartier général de l'opération militaire de la Russie contre l'Ukraine. Donc je ne sais pas si concrètement tout cela va se traduire par des opportunités pour l'Ukraine sur le terrain, mais c'est quelque chose en tout cas qui ne joue pas en faveur de l'opération militaire russe.
Samuel Gembog, nous avons vu que Bangui a fait une déclaration après la mutinerie avortée. Bangui qui dit que les liens, le partenariat vont continuer avec la Russie. Et donc, mais pourquoi le Mali n'a pas encore fait de déclaration publique après cette rébellion avortée d'après vous?
Je pense que il y a une différence entre le régime centrafricain et le régime malien. Au Mali, il y a une junte militaire qui a une compétence en matière de planification stratégique et de projection. Et donc, je pense qu'ils sont un peu plus prudents pour se déclarer. Ils voient peut-être d'un très mauvais œil une récupération de Prigojine dans le bloc occidental. Peut-être des manœuvres qui pourraient déstabiliser la stratégie mise en place pour renforcer le dispositif sécuritaire du pays. Donc, je pense qu'ils sont un peu plus prudents.
Walid Fares, très rapidement, vous pensez que c'est une situation à suivre, qui a encore des choses, qui ont encore des développements à venir?
Tout à fait. On ne doit pas être un politologue pour deviner que ce n'est pas la fin, comme vous. Guests l'ont dit, il y a la question de l'Ukraine qui va aussi ouvrir plusieurs questions, qui va poser plusieurs questions, mais il y a aussi ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Afrique. Les pays mentionnés ne sont pas les seuls. Ça va tout droit jusqu'à Madagascar et ça va jusqu'en Libye, où la situation est tout à fait délicate. Donc les questions vont être en perpétuité.
Parfait. Et très rapidement, Patrick Chevalereau, vous partagez cet avis? C'est une situation qui peut évoluer.
Ah oui, tout à fait. Ça a été très bien dit. On n'est même pas au milieu du guet. On est au début d'une nouvelle page de l'histoire, peut-être de l'histoire russe, en tout cas du régime de Poutine. Hein.
D'accord.
Choses ne vont pas forcément se décanter dans les semaines qui viennent, mais et je crois que les chancelleries occidentales.
Ouais, très bien. Et voilà, point final à ce Washington Forum. Un grand merci à tous nos invités, Walid Fares, Patrick Chevalereau et Samuel Gembog. J'en profite pour faire un clin d'œil à toutes les radios et télépartenaires de VOA Afrique. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la Voix de l'Amérique. Merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Take care. Merci.